Bonsoir à tous, deuxième numéro de l'Écho des Cimes en CFM, une émission concoctée avec l'association Canopée et avec nous pour ce deuxième numéro, une membre de l'association Canopée. L'autre fois j'avais un homme, là j'ai une femme, c'est très bien, on est pour l'instant parfait dans la parité.
Ça durera pas.
Ah bon? Bah ça dépend de quel côté on se penche, on verra.
Toujours pareil.
Même chez Canopée?
Même chez Canopée.
Bonsoir Olivia.
Bonsoir.
Membre de l'association Canopée. Donc depuis combien de temps, sur un discret?
Depuis environ 2007, si mes souvenirs sont bons.
Quelques
petites années, oui.
On va rappeler pour ceux qui nous rejoignent et ceux qui découvrent peut-être l'Aveyron, pourquoi pas, un peu l'objet de l'association Canopée.
Donc l'association Canopée œuvre en faveur de la sobriété énergétique et consumériste pour faire face aux impacts du réchauffement climatique, entre autres, et prôner une transition énergétique qui nous semble nécessaire.
Donc vous avez choisi aujourd'hui, Olivia, de mettre en avant le village de Caplong,
oui,
en Aveyron.
Oui.
Nous sommes dans notre studio avec l'un des habitants de Caplong, qu'on va saluer tout de suite. Je vous ai pas oublié, Vincent. Bonjour, Vincent.
Bonjour.
Vincent Benoît, donc habitant de Caplong. Comment on appelle les habitants de Caplong?
Des Caplongais, tout simplement.
Caplong, on va situer un petit peu déjà où c'est dans le département. Moi, je suis ici en Aveyron que depuis 3 ans. Il y a pas mal de gens
donc,
comme moi.
Si vous voyez un peu le lac de Parelou, Caplong, c'est sur la commune d'Arvieux, c'est au bord du lac de Parelou, en fait. Et en gros, c'est entre Rodez et Millau, voilà. Un petit village de 900 habitants, Arvieux, et le village de Caplong, c'est un petit bourg de 80 habitants qui ne comptait, il y a quelques années, que 27 habitants, je crois. Voilà.
D'accord, donc qui s'est développé ces dernières années.
Et qui est pourtant ce qu'on appelle, dans un jargon connu, un trou du cul du monde, donc voilà, qui a réussi à se développer.
Et donc, je voulais juste préciser qu'il y a deux manquants ce soir.
Allez,
qui étaient invités, mais le temps faisant, l'activité et puis l'engagement à repeupler Caplong aussi. C'est-à-dire notre le boulanger de Caplong qui devait être présent, mais qui la famille s'est agrandie il a géré les activités des enfants et le paysan, un des paysans de Caplong qui devait être présent, Jean-Marc, qui n'a pas pu honorer son rendez-vous à la dernière minute.
Bon, voilà, ils sont excusés quand même.
Mais dire qu'on regrette
leur absence,
qu'ils ne puissent être présents avec nous.
Alors, Olivia, pourquoi vous avez souhaité mettre en avant le village de Caplong? Pourquoi Caplong? Il y en a des villages en Aveyron.
Oui, oui, il y en a des villages, mais des comme ça, il y a des villages qui ont les prémices, mais je crois que Caplong est un des villages qui a le plus loin. Sa capacité à prendre des initiatives qui servent demain, qui servent l'avenir. Et ça me paraissait intéressant de pouvoir écouter et entendre quelles étaient leurs expériences.
Alors, Vincent Benoît, vous êtes habitant de Caplong, on l'a dit. Vous êtes aussi co-président de l'association Locomotivée?
Voilà, les Locomotivés.
Les Locomotivés, voilà. Merci. Cette association, c'est quoi l'objet?
Cette association, en fait, l'objet, c'est toujours d'ailleurs de relocaliser notre alimentation de manière écologique et équitable. Donc, si je peux le résumer, c'est comment manger au plus proche de manière saine et sobre. Donc, on est aussi sur la sobriété, c'est-à-dire comment faire plus avec moins d'énergie, pétrole notamment. Enfin, voilà, comment faire plus avec moins avec les gens de notre territoire. On peut poser la question différemment. Pourquoi aller chercher loin ce qu'on a à côté de chez nous? Pourquoi aller chercher de la viande à 1000 km alors qu'il y en a à 100 mètres, etc. Donc en fait, l'objectif, c'était de redevenir souverain de manière alimentaire, c'est-à-dire de faire en sorte que ce soit notre territoire qui nous nourrisse et nos producteurs locaux qui assurent notre alimentation.
Alors ça, c'est l'objet et le discours de l'association. Et donc vous, Canopée, autre association, vous considérez qu'effectivement, au-delà des mots, dans l'action et concrète, à Caplong, on se distingue d'autres villes et surtout villages en France et en Aveyron.
Je l'aborderai pas comme ça. Je l'aborderai pas en comparaison avec les autres villages. En tous les cas, moi, ce que j'ai envie de mettre en avant, en exergue, c'est un village qui avait 27 habitants, qui aujourd'hui en compte 80. Je crois qu'il y a un certain nombre de villages qui en rêvent de voir, et pourtant qui est pas aux portes de Rodez. Il y a un certain nombre de villages qui en rêvent de voir leur population, enfin leur territoire qui soit réhabité. Et je crois que justement Caplong, sur cette notion d'habiter, il y a de véritables habitants. C'est pas simplement des gens qui résident, mais c'est des gens qui occupent le territoire. territoire dans sa globalité, qui prennent en compte la totalité de ce que peut être un territoire, que ce soit sur l'aspect culturel, vie ensemble, économie. Il y a tous les ingrédients pour générer de vrais habitants. Et ce sont des habitants qui ne vivent pas justement dans leur trou du cul du monde, repliés sur eux-mêmes, mais qui vivent aussi en lien avec le monde urbain, puisque j'imagine que tout le monde a entendu parler de Cap Festival, que tout le monde a entendu parler de Cap Môme, et qu'un certain nombre d'urbains aujourd'hui sont alimentés, enfin en tous les cas achètent un certain nombre de denrées directement via les locomotivés. Donc voilà pour un trou du cul du monde qui sait bien s'ouvrir au reste du monde.
Alors on va développer tout ça, on va essayer de comprendre avec Vincent Benoît comment, pourquoi les habitants de Cap-Longue sont différents un petit peu des autres habitants sur nos territoires. On va commencer en musique comme d'habitude hein, dans cette émission, l'écho des cimes en CFM. C'est vous Vincent qui avez choisi ce titre, et j'ai mis du temps à percuter pourquoi vous m'aviez demandé Zebda et Motivé.
Alors il y a deux raisons en fait, c'est que j'habite un village Arvieux, et Cap-Longue, en fait Cap-Longue est commune d'Arvieux, et je fais partie du comité de fête d'Arvieux. Le comité de fête d'Arvieux a accueilli Zebda il y a 7-8 ans, on a accueilli il y a moins de 2 mois Manu Chao, et la question c'est comment ce petit village fait pour accueillir Manu Chao. C'est parce que Manu Chao choisit de venir dans ce village. Donc c'est miraculeux dans un certain sens. Et il y a 10 ans, en 2003, on a accueilli déjà Manu Chao. Donc en fait, Zebda, c'est aussi un clin d'œil au comité des fêtes dont je fais partie, qui a accueilli Zebda, peut-être elle l'accueillera bientôt. Et les motiver, voilà, c'est une des idées qui nous a amené à créer cette association.
Et ben, on se retrouve juste après dans l'écho des cimes en CFM.
Ce soir l'ennemi connaît
Ah, motivés, ils le sont, motivés, locomotivés même, c'est une partie des habitants de Caplong. On en parle dans cette émission en CFM, l'Éco-Décime, avec l'association Canopée. Olivia, membre de cette association aveyronnaise, est avec nous dans le studio. Et son invité aujourd'hui, c'est Vincent Benoît, qui est habitant de Caplong et co-président de l'association Les Locaux Motivés. On va parler des actions de cette association. Hein. Vincent, je reviens sur ma question là, juste avant d'écouter Zebda. Oui, qu'est-ce qui se passe à Caplong? Pourquoi Caplong? Que s'est-il passé à Caplong pour que d'une part il y ait plus d'habitants, comme vous le disiez en quelques années, et pour que d'autre part, eh bien, vous fassiez plaisir par vos actions, même si c'est pas l'objectif, à l'association Canopée?
Ben en fait, donc Caplong déjà c'est un tout, c'est-à-dire que ça fait partie du village d'Arvieux, et le village d'Arvieux au moment de la création du Cap Festival, je pense vers 97-95. Cap Festival c'est un festival de musique qui s'est créé après la vidange du lac de Parelou à Caplong, et ce festival de musique il a énormément sollicité des bénévoles locaux qui ont appris à se connaître, il a énormément attiré de monde, et il y a du monde qui s'est mis à connaître Caplong, et en même temps il y avait une mairie en 98 qui était sur l'encouragement de toutes les initiatives pleines d'énergie, qu'elles soient celles de jeunes, qu'elles soient de monde culturel, économique, etc. Donc le maire de l'époque c'était Raymond Vessette. Et il y a plein de choses qui se sont passées à ce moment-là. Le village d'Arvieux et notamment Caplong pouvaient accueillir de nouvelles maisons. Les activités culturelles l'ont fait connaître, et c'est un village aussi qui propose, si vous voulez, quand vous cherchez un lieu de vie, vous cherchez soit un lieu pour dormir, on appelle ça des villages dortoirs. Donc un village dortoir, il a la capacité de grossir très vite, mais on ne peut plus appeler ça un village puisqu'il y a plus de lien social de type villageois. Puis vous avez d'autres villages comme Caplong, où vous n'y allez pas pour des raisons rationnelles de type distance à la ville, ou vous y allez pour d'autres choses qu'on doit appeler un projet de vie, en fait. Un projet de vie, c'est une façon de vivre avec les autres, c'est une façon de consommer, c'est une façon de s'imaginer dans l'avenir, etc. Donc, quand les gens sont venus à Caplong, ils ont, entre guillemets, acheté le café, le fait de pouvoir aller au café de manière libre, un café associatif, de manière libre quand ils voulaient. Bien sûr, le tenancier de ce café, Jean-Marc Desjean, qui est un peu connu dans tout le département, et n'y était pas pour rien, puisqu'il a une forte capacité d'attraction et de séduction par rapport à son projet et ce projet de village. Donc voilà, le Cap Festival a attiré énormément de gens et de jeunes dans le milieu culturel et créatif, et donc en fait plein d'habitants sont arrivés. Et quand vous créez de la nouveauté dans un espace, que dans cet espace les gens discutent, qu'ils ont des enfants à peu près en même temps, que les enfants sont en liberté, ça crée du lien social très fort. Et donc on va partager aussi bien les gardes des enfants que le bar, que des projets comme le Cap Mom ou le Cap Festival. Et c'est un village, en fait, où moi je suis arrivé en 98, c'est en gros les gens vous disent, ben si tu as une idée, ben on peut foncer, il y a 100 bénévoles avec toi, et de toute façon tu tu la réussiras pas tout seul, on va rajouter des trucs dedans, etc. Donc il y a plein de gens qui sont arrivés avec leurs idées, et il y a eu plein de gens pour venir faire grandir ces idées et en faire des vraies manifestations culturelles. Donc je pense à Cap Mom, qui est un festival pour les enfants, qui maintenant est à Salmiège. Je pense au Cap Festival, je pense à Arvieux au MacDoc, qui a été créé en 98. Je pense à une nouvelle création cette année, c'est le Cabaret Veillon, c'est-à-dire qu'on va avoir un cabaret au premier de l'an, où tous les spectacles sont construits par les habitants du village lors de sessions artistiques faites pendant un an. C'est-à-dire que là, en ce moment, il y a des cours de chant, il y a des cours de danse. Donc, en fait, on est toujours dans la co-création. On est dans un lieu où, si le monde n'est pas tel qu'on veut, pourquoi pas le changer un peu? Moi, je le dis ça comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on est créateur de notre espace de vie. Alors, à partir du moment où il y a de belles relations, c'est possible parce que il est compréhensible. C'est un monde compréhensible et pas écrasant. Pour moi, c'est un monde de créativité. Mais ça, malheureusement, c'est pas possible partout. Je veux dire, en Aveyron, il y a des villages qui sont accueillants, il y a des villages qui sont moins accueillants. Moi, je suis arrivé en 98 Arvieux, j'avais 24 ans, j'ai dit je vais créer une entreprise de multimédia avec deux jeunes, j'ai envoyé une lettre avec mes collègues à toutes les mairies du canton de Cassagne, il n'y a qu'Arvieux qui a répondu. Donc l'accueil est très important, croire aux jeunes c'est très important, et on a reçu un accueil énorme, puisqu'un de mes associés qui était de Dijon, qui n'avait pas un pet l'accès aveyronnais, hein, vraiment, pour le coup vraiment il n'était pas né là, il est devenu en moins de 6 mois le président du comité des fêtes d'Arvieux, qui est quasiment le plus gros ou le deuxième plus gros comité des fêtes d'Aveyron. Donnez-moi le nombre de villages qui sont capables ou qui ont eu cette capacité d'accueil aussi rapide sur ce qu'on appelle ici en Aveyron, en étranger. Donc c'était qu'il y avait cette énergie et qu'il y a cette énergie d'accueillir les énergies. Et ces énergies créent des gens différents. Et quand vous avez des gens différents, ils sont créatifs ensemble et ils créent des choses nouvelles. Donc c'est bien la différence, c'est bien l'accueil qui a créé cette capacité.
Donc si j'entends bien, capacité d'accueillir authentique, on va dire, sincèrement, et la capacité aussi à accueillir les initiatives sans frein, mais peut-être avec une condition de faire ensemble, pas une initiative, mais effectivement qu'elles s'inscrivent dans un tissu social qui est large.
Voilà, alors tissu social large, Après, il y a vraiment une chose qu'on applique à toutes nos fêtes et à tous nos concepts. En fait, pour moi, les deux ingrédients non négociables dans les projets qu'on gère, notamment les locomotivés, c'est la convivialité. Et dans les fêtes qu'on fait, il y a la notion d'intergénération. C'est-à-dire que convivialité, intergénération, en tout cas, dans toutes les fêtes que vous voyez, il y a forcément des âgés, il y a les trois générations, en gros, si je fais rapide, les tout petits, enfin, les enfants, les adultes et les grands-parents. Dans toutes les fêtes, c'est presque une règle, une condition sine qua non pour faire une fête. Donc, il y a convivialité. Et la convivialité, c'est souvent lié à la nourriture. Surtout en Aveyron. voilà. Mais la convivialité, c'est le liant des projets, en fait. Si vous n'avez pas du plaisir à faire et à être ensemble, les projets ont une durée de vie, une créativité beaucoup moins grande. En fait, c'est mon point de vue. Voilà. Donc, c'est vrai que moi, j'ai un plaisir énorme à être tombé dans ce village et à avoir pu exercer ma créativité avec d'autres et être dépassé par une petite idée que je peux donner ou que quelqu'un d'autre donne et qui devient quelque chose qui vous dépasse 3 ans après quand vous le regardez.
Je voudrais juste, mais c'est qu'une parenthèse, en écoutant Vincent, finalement, on pourrait reporter cette manière d'approcher les dynamiques locales à nos problématiques nationales et on peut dire que n'ayons pas peur d'accueillir l'étranger. Peut-être qu'il faut le paramétrer, il faut peut-être en parler, mais d'empêche que l'étranger a du bon aussi. Hein.
Quand même, Vincent, qu'on s'entende bien... C'est magnifique, mais j'imagine quand même, enfin, c'est pas le paradis non plus, Cap Long, entre des petites querelles de voisinage, il doit y en avoir pour telle ou telle raison. Pas forcément des querelles, mais des points de vue simplement qui se confondent. Comment vous gérez ça?
Je dirais que, non, les querelles de voisinage, j'ai pas pu trop en voir, mais il y en a comme partout, il y en a. Comment on gère ça, en fait? Il y a pas. Le frottement, en fait, si vous avez de la relation et si les gens se rencontrent, se regardent dans les yeux, se reconnaissent, à un moment donné, oui, ils vont s'engueuler. Des fois, ça va être plus dur parce qu'il y a aussi la promiscuité qui dure trop longtemps. Donc, Cap Long a une image parfois un peu sectaire ou de communauté. Non, moi, j'ai une maison, elle est à 400 mètres du café, je suis pas tous les jours au café, j'ai un travail à côté, donc parfois, mes voisins de Cap Long, peut-être que je vais pas les voir pendant un mois, puis je vais faire deux grosses fêtes avec eux juste après. Non, il y a simplement une solidarité, on se connaît, on a eu fait des choses ensemble ou on fait des choses ensemble, donc ça se gère comme ça. Il y a un juste milieu entre promiscuité de type communautaire et indépendance et maison individuelle. Je dirais qu'on le gère comme ça, je crois. Garder la bonne distance, en fait, tout le temps.
Ouais. Et peut-être aussi, pour m'être baladé là-bas, je dirais qu'il y a quand même globalement un climat confiance. Peut-être tu peux parler, Vincent, de comment on va chercher ses œufs, le pain, ou voilà, qu'on boit son café ou...
Bon, mais c'est vrai qu'on est dans un village où les gens se connaissant, etc. Ben le café est tout le temps ouvert, donc on va se servir le café, mettre une pièce. Le boulanger, le magasin, il peut pas le tenir toute la journée, donc en fait vous avez la caisse ouverte, vous prenez votre pain, vous mettez dans la caisse. Voilà, il y a ces choses là. Ouais. Le boulanger aussi à une époque, il pouvait pas tenir son magasin. Et ben c'était Michel, un retraité du village, qui lui dit mais moi je te le tiens le magasin. Donc le retraité du village quelque part, ben il voyait du monde et puis il aimait bien le pain, donc c'était sympa. Et enfin disons que ça maintient en bonne santé tout le monde, je dirais quelque part. Les relations humaine, le lien social, le lien de solidarité, c'est une manière d'avoir moins besoin des hôpitaux en réalité, hein, puisqu'on a une très bonne expérience de vie en Aveyron notamment. Donc voilà, c'est des choses aussi concrètes que ça. Quand tout le monde se sent utile dans une communauté, les jeunes, les moins jeunes, etc., et que tout le monde se rend service, ça crée du lien qui fait que les querelles de voisinage existent, mais au bout d'un moment, une bonne bouffe, un bon apéro, et c'est résolu. Et moi, j'ai vraiment l'image à Cap Long de ça. Il y a un côté un peu, des fois, pas démago, mais un peu explosif, et c'est vraiment la dernière page de Astérix Obélix en match de sanglier, et le barde, des fois, l'attache en haut parce qu'il nous embête, mais voilà, il mange quand même avec nous, quoi. Donc il y a vraiment cette idée-là de rassemblement. C'est vraiment l'une des dernières images du village gaulois, quoi. C'est important, c'est manger ensemble, en fait. C'est pas si compliqué, quoi.
Olivia.
Alors je reviens sur cette idée de confiance et justement cette relation marchande, parce que je pense que c'est une relation qui est très très présente partout dans nos sociétés. Elle est très présente particulièrement en milieu urbain, puisque c'est quand même des lieux de prédilection de la consommation. Et je crois que mine de rien d'avoir cette relation à l'argent avec ce climat de confiance où on met la pièce dans, on n'a pas supprimé l'argent, mais d'empêche que c'est pas un problème en soi et qu'on se fait confiance à partir de là. Je pense que ça imprime aussi les esprits et je pense que c'est quelque chose qui est important dans un projet de société locale.
Ça continue puisque voilà, c'est cette idée en fait d'être dans un lieu qu'on crée, qu'on co-crée, qui se modifie en permanence et être acteur de son territoire et d'inventer demain. Voilà, par exemple, le village, à un moment donné, s'est posé la question de la sobriété énergétique au niveau des lumières, en fait, et le village de Cap Long, collectivement, donc, c'est une démocratie locale, on n'est plus dans la démocratie au sens vote, voilà, les gens du bourg de Cap Long ont dit, nous, on est d'accord pour que les lumières s'éteignent, je ne sais plus exactement l'heure, 11h ou minuit.
D'accord.
Et du coup, on a mis un interrupteur pour tout le bourg de Cap Long, qui éteint à 11h minuit, donc sur l'année, c'est quand même des économies d'énergie non négligeables. Donc, les habitants du village ont choisi cela, l'ont accepté et l'ont choisi, et du coup, le village de Cap Long a reçu un label national et bientôt il y aura une fête le 28 juin en fait, il y aura le feu de la Saint-Jean, on fêtera l'installation de ces panneaux. On a été élu village étoilé, c'est un label national et on fêtera tout ça le 28 juin au feu de la Saint-Jean. Et ce label en fait garantit que depuis ce village, on peut observer les étoiles sans trop de pollution lumineuse.
Voilà. Et bon, on va reparler dans cette émission L'Écho des Cimes en CFM juste après un second titre. Ce coup-ci, c'est Olivia qui l'a choisi. Bah, regardez pas comme ça, Olivia, c'est vous qui l'avez choisi.
Oui, je l'ai choisi.
Camille, c'est très bien Camille.
C'est ce qui m'est venu à l'esprit, on va dire que...
Ouais, mais il faut laisser parler son inconscient. Alors pourquoi Camille, Olivia?
Parce que j'aime bien Camille. Parce que c'est une femme qui a la pêche et c'était en pensant à une pensée pour quelqu'un.
Et ben on se retrouve juste après dans l'Écho des Cimes en CFM avec Vincent Benoît, habitant de Caplongue et co-président de l'association Les Locomotivés, dont on en reparlera évidemment dans cette émission.
Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Elle lutte, elle se débat, mais ne résistera pas, je vais bloquer l'ascenseur. Je vais prendre ta douleur. Saboter l'interrupteur. Je veux prendre ta douleur. Mais ce qui s'est incrusté, cet orage avant l'été, cette chupine petite sœur. Je vais tout lui confisquer, ses fléchettes et son sifflet. Je vais lui donner la fessée. Je vais prendre ta douleur. La vraie de la récré. Je vais prendre ta douleur. Mais c'est qui cette héritière qui se baigne, qui se taille dans le tiède de tes reins?
C'est l'Écho des Cimes en CFM, l'émission de Canopé et ses amis. Et Canopé, ce soir avec nous, c'est Olivia, membre de l'association Olivia. Et son invité, c'est Vincent Benoît, habitant de Caplongue, que vous avez choisi de mettre à l'honneur dans cette émission ce mois-ci. Ouais. Vincent Benoît, qui est non seulement habitant de Caplongue, c'est déjà une bonne chose, d'après ce que j'ai compris dans le début de cette émission, et qui est aussi co-président de l'association Les Locaux Motivés. On va en parler, mais on va revenir sur cette histoire de village étoilé. Donc vous avez décidé d'un commun accord.
Voilà, le village, en gros, dans une sorte de réunion de village, et après avoir consulté les habitants du bourg, d'éteindre les lumières à partir de 11h, en fait.
Voilà, donc là, économie d'énergie, Olivia, contente.
100%.
Voilà.
Et surtout, aussi, action citoyenne souveraine, c'est-à-dire que c'est le citoyen qui dit, on peut faire mieux, et on choisit de faire mieux.
Donc, ce qui est intéressant dans cette expérience, si j'ai bien compris, et tu me reprendras Vincent si je me trompe, mais il y a eu une démarche qui a été faite auprès de la municipalité, qui, elle, n'a pas voulu prendre d'emblée la décision, mais qui a attendu que les habitants fassent une sorte de pétition ou un écrit pour s'engager et pour, en fait, conforter. C'est pas qu'il n'était que la municipalité était contre, mais c'était pour conforter cette décision qui va à l'encontre de tout ce qu'on fait, puisque dès qu'il y a une maison,
on a peur du noir. Ça
on demande, oui, c'est tout juste. Il faut pas la lumière, tout moment de la nuit.
Et ce qui est très dur aussi aujourd'hui dans les initiatives qu'on peut prendre, c'est que il est de bon ton d'être sérieux, en fait. Et d'être sérieux, ça veut dire attention. S'il fait noir, qu'elle tombe dans l'escalier à 11h.
C'est vrai, ça peut être bête, mais
c'est bête. Mais avant, on n'avait pas de lumière. Il y a 10 ans, il n'y en avait pas, et on avait une lampe de poche. Donc oui, on peut tomber dans l'escalier, oui. Et contre qui on va porter plainte? Oui, contre le maire, oui. Vous voyez, donc
c'est ce qu'on vous a répondu à la mairie?
Alors moi, je suis membre du conseil municipal en plus, d'accord. Mais non, le conseil municipal, la mairesse a dit, voilà, j'accepte que vous décidiez, mais j'ai besoin que vous l'affirmiez, parce que moi, je ne prends pas la responsabilité seule. Ouais. C'était normal, elle voulait être sûre que ce soit les habitants qui affirment cela, parce que c'était sinon un acte antidémocratique.
Et d'une façon générale, avec la municipalité, alors je ne sais pas si elle a changé là dernièrement ou pas, mais vous travaillez en cohésion, ensemble, ou en travers des échanges, c'est quoi un peu le rapport?
Arvieux, commune d'Arvieux, il y a plus de bénévoles que d'habitants si on fait l'ensemble des associations. Il y a une association très importante, Famille Rurale, qui va assurer des services culturels du quotidien qui sont énormes. Hein. C'est des cours de musique pour les enfants, c'est des cours de yoga. Moi, j'ai des cours de méditation à Cap-Long. Et dans ces cours de méditation, il y a des agriculteurs, il y a des gens créatifs comme moi je suis dans l'internet, il y a tout ça. C'est juste que on a une offre culturelle de services qui est digne de Rodez. Parce que les gens y vont déjà.
Ah, vous n'avez pas de musée Soulages, quand même, vous allez faire ça.
Non, mais on a des tables. Si vous venez au village de Cap-Long, vous verrez qu'il y a des grandes façades avec des tags énormes. Vous verrez qu'il y a une cabine téléphonique au milieu du village noir, donc peut-être d'inspiration Soulages.
Ah, j'ai rien dit.
On ne sait pas. Donc oui, il y a toujours cette folie, cette créativité, mais il y a aussi une offre de service qui est assez énorme vu la taille du village, 900 habitants. Et c'est vraiment les gens, en fait, ils disent, ça y est pas, comment on se démerde pour y arriver. Et moi, l'autre jour, j'étais à la réunion des associations d'Arvieux, famille rurale, c'est 50 familles adhérentes. Vous avez des cours de batterie pour les petits, quoi. À Arvieux. Donc voilà, c'est ça, inventer sa vie, quoi. C'est ce que je disais quand je faisais mes études à Lyon et que j'étais ingénieur INSA et donc rural, parce que de culture rurale. Je disais, l'avantage d'être en milieu rural, c'est que si je veux voir un concert, je suis obligé de le créer et de l'organiser. Mais il y a, dans la création et l'organisation, il y a quelque chose de vraiment excitant, quoi, voilà, à le faire. Donc c'est ça qui, voilà, c'était un rêve de moi, mais moi, je l'ai trouvé, je suis pas né à Arvieux, en fait, j'ai trouvé Arvieux à Cap-Long, quoi. C'est, si ça y est pas, on l'invente et on le fait.
Dans cette démarche-là, c'est particulièrement intéressant parce qu'effectivement, quand on veut changer nos modes de consommation, ce qu'on n'a pas, si on est obligé de le produire, il prend une toute autre valeur. Et c'est autre chose que de sortir un billet, que de fabriquer ce dont on a besoin. Et ça, je trouve que c'est étonnant et c'est remarquable. Voilà.
Mais c'est aussi un privilège.
C'est un privilège. Alors, pour vraiment répondre à votre question, Arvieux et le conseil municipal dont je fais partie considèrent que sa principale richesse, c'est le lien social des associations. C'est-à-dire que la dernière réunion sur les demandes de subventions aux associations, les associations sont très honnêtes, qu'elles n'ont pas besoin, elles ne demandent pas. Donc, on n'a pas de demande d'argent public. Ben nous, en fait, quand on a nos demandes de subventions qui diminuent, pour nous, c'est un signe dangereux. Ça veut dire qu'il y a moins d'activités associatives, donc moins d'attractivité, donc moins d'avenir. Donc, nous, quand on voit nos demandes de subventions baisser, ça veut dire qu'il y a moins de manifestations d'ampleur. Prévu. Et en tant que conseiller municipal, on voit presque plus ça comme un indicateur de danger pour le développement futur que comme un indicateur super, on nous demande moins d'argent.
Et alors justement, là, actuellement, ça donne quoi?
Actuellement, ça se stabilise, mais ça fait 2 ans que ça baissait un peu. Ouais.
Ceci dit, Vincent, on peut très bien aussi développer des activités associatives et pas des moindres sans solliciter forcément l'argent public. Hein.
C'est le cas des locomotivés d'ailleurs.
Voilà. Hein, donc... quand on a fait les chantiers de l'utopie, il n'y a pas eu de demande de subvention, il y a eu un soutien logique. Logistique, certes, des collectivités, mais pourtant, il y a eu une initiative.
C'est simplement que quand la commune soutient les associations, c'est du quotidien. Soutenir les associations, c'est quoi? C'est que quand vous êtes élu, vous êtes un peu un connecteur entre problèmes de voisinage, entre personnes. Vous voyez, vous allez être médiateur quelque part, vous avez un rôle de médiation. Et donc, je sais que l'ensemble des élus, en tout cas l'ensemble d'entre nous, dès qu'on sent qu'il faut lever un problème de type associatif ou conflictuel lié au monde associatif, on le fait. Donc oui, il y a la commune d'Arvieux et ses conseils municipaux ont conscience que la richesse est liée à l'engagement bénévole associatif. Famille rurale, c'est énorme. C'est un service et si vous deviez vous le payer, ça serait énorme. La solidarité, c'est une chose simple, ça diminue les frais médicaux. C'est, si on regardait la solidarité, l'impact que ça a sur les frais médicaux, donc faut arrêter de nous vendre des médicaments, faut nous vendre des gens qui se connaissent. Je vais vous donner un autre exemple. Arvieux, la méthode, j'appelle ça faire prendre la mayonnaise. On avait un problème à Arvieux il y a 6 ans, que j'étais conseiller municipal, on avait les commerces se casser la gueule. On avait les plus grosses associations de l'Aveyron, comité des fêtes d'Arvieux, etc. Début de mandat, on dit, on a un problème, les commerces se cassent tous la gueule. On a un problème, les associations marchent. On a fait une réunion association commerçants. En début de mandat, on a dit voilà, ça serait bien, vous association, nous on veut bien continuer à subventionner ou pas, mais ça serait bien que vous consommiez local auprès des commerces. Et les commerces étaient présents. C'était la première fois qu'ils se rencontraient dans la même pièce. Les commerces, ils ont dit mais c'est pas vrai, nous la bouteille de plastique, on peut l'avoir au même prix que le Super U si vous nous le demandez un mois avant. Juste, on a besoin de savoir un mois avant. Donc ils se reconnaissent, ils se touchent. On mélange les ingrédients. Mm-hmm. Une mayonnaise, faut la remuer pour qu'elle prenne. Hein. Donc voilà, on mélange les ingrédients. Et nous, la mairie, on a joué le rôle troisième larron. On a dit OK, nous on subventionnera que si vous association vous nous prouvez dans vos bilans, on ne demande rien d'autre que vous avez essayé de consommer local. Je suis à peu près sûr que ça a généré par an entre 10 et 30 000 euros de retombées pour les commerces locaux. Et peut-être que sur certains commerces, ça les a limite empêchés de couler. En fait, c'est aussi croire que mélanger les choses et faire comprendre l'intérêt de chacun et surtout se faire rencontrer les gens parce qu'ils se regardent souvent en chaîne de faïence, ça peut créer des solutions qui coûtent rien. Ça n'a coûté rien. À part un peu de travail.
Vous pensez que c'est transposable à plus grande échelle?
Oui, mais faut y croire. Oui,
c'est... Parce que se rencontrer, oui, mais quand on se connaît déjà un peu, quand on se voit, mais dans des villes plus grandes, on se connaît moins, on se voit moins souvent, il y a moins de sentiment de proximité, c'est peut-être plus compliqué.
Ben après, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a des villes comme New York où c'est une collection de petits villages et les gens inventent demain. Ouais. Moi, j'ai vu un reportage sur New York et j'avais l'impression de voir Arvieux.
Ah bon?
Gaplong. Oui, non, on voit des gens qui créent des espaces de vie, des jardins en plein New York, des milieux créatifs. New York, pour moi, vu de loin, c'est une collection de villages. C'est pour ça que les gens l'appellent la Apple et c'est la grande pomme. C'est que c'est au niveau lien social, c'est un truc de taré. New York, c'est génial, quoi. Olivia?
Non, mais je pense qu'effectivement, enfin, sans être, il n'y a pas de modèle à transposer. Il y a tout à inventer, mais avec des ingrédients similaires. Mmh. Je dirais, ça donne, effectivement, cette idée de rencontre, elle existe dans les milieux urbains. Il y a des choses tout à fait fabuleuses qui existent parfois dans les milieux urbains. C'est pas propre au monde rural.
Non.
À partir du moment où il y a de l'humain et qu'il y a de l'humain qui décide de prendre en charge effectivement les choses, il peut y avoir effectivement ce type d'initiative. Il y a à certains endroits du monde, bon, on parle de New York, mais il y a d'autres endroits. Dernièrement, il y avait un film qui est passé à Rodez, c'est un grec qui s'appelait Ne vivons plus comme des esclaves ou quelque chose comme ça, et qui témoignait de ce qui se passait en ce moment à Athènes. Eh bien, il y a des habitants à Athènes qui ont décidé par la force des choses de se prendre en main, et cette idée de solidarité, de rencontre dans tout un quartier, un grand quartier d'Athènes se met en place avec des dispensaires gratuits et solidaires, avec la distribution de vêtements. Il faut savoir qu'il n'y a plus de sécurité sociale, donc il y a tout un système de solidarité et l'humain persiste. Voilà.
Un mot là-dessus, vous disiez tout à l'heure, vous êtes entre vous connaissez bien, vous formez... Alors pas une communauté, mais enfin quand même une belle équipe. Mais du coup, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a des risques d'un peu de renfermement sur soi. Vous êtes un peu ouvert sur le monde, la Grèce, les problèmes. Parce que vous, a priori, je ne vais pas dire que tout va bien à Kaplong, mais ça va à Kaplong. On a plutôt la belle vie. Mais vous avez quand même un œil sur la Grèce, et même beaucoup plus près de nous. Il n'y a pas besoin d'aller en Grèce pour avoir des gens en difficulté.
Il faut savoir que la plupart des gens qui sont arrivés à Kaplong, dans les 60 habitants qui manquaient,
ouais.
La plupart, ils sont de culture moderne. En culture moderne, il n'existe pas de culture rurale, il n'existe pas de culture urbaine. Il existe des gens qui ont envie d'avoir le beurre, l'argent du beurre, c'est-à-dire l'intensité culturelle d'une ville comme Toulouse et la tranquillité ou le beau paysage de Kaplong. Donc en fait déjà, la scission entre les deux, à mon avis, dans ce que je connais moi, n'existe plus. On essaie d'avoir les deux, on a internet chez soi, etc. On peut avoir les deux. Donc l'ouverture sur le monde au sens culturel et créatif, dans notre village, il y a une intermittente théâtrale, etc. Il n'y a pas de souci.
Oui.
En termes de solidarité,
voilà.
Oui, il y en a. Par exemple, je vais prendre le Mimi qui est femme d'un agriculteur de Kaplong et qui est aussi intermittente du spectacle, qui fait des pièces de théâtre. Et elle a fait des spectacles avec des gens atteints d'Alzheimer. Il y a aussi l'association Les Siphonnés qui fait ses répétitions clown à Kaplong, qui fait des interventions à l'hôpital auprès des enfants malades. On est dans l'action sociale qui essaie de rendre service, quoi. Après, les locomotivés que je présenterai tout à l'heure, c'est moins de la solidarité, mais nous, la ETIS, enfin l'entreprise que je gère, on a fait un quelque chose qui s'appelle Aligo pour tous il y a 2 ans.
Ah ben oui.
C'est vous qui avez fait ça.
Alors la ETIS, juste un mot vite fait.
La ETIS, en fait, c'est une entreprise qui a été créée en 98, dont je suis un des fondateurs, et dont le but est de créer des sites internet et des
D'accord.
Des outils de multimédia. On est aujourd'hui 12 personnes à Arvieux, donc c'est pas rien pour le petit village d'Arvieux.
C'est même énorme.
Et on est spécialisé dans les stratégies numériques de territoire. Du coup, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire qu'on aide les territoires à créer leur mayonnaise locale pour inventer demain avec les habitants locaux.
Et donc, du coup, alors excusez-moi, je fais une petite parenthèse là-dessus. Pour vous, alors, je ne vais pas dire que Caplong est un laboratoire, mais c'est un peu, si, un peu un laboratoire, une vitrine de ce que vous
êtes,
du monde tel que vous l'aimeriez.
Je ne l'ai jamais vécu comme ça, en fait. Je l'ai vécu. Avec du recul, oui. Mais je l'ai vécu, c'est-à-dire que je me suis jamais dit ça va être un laboratoire. Ou voilà, c'est, je l'ai vécu avec des gens. Il y avait mes meilleurs amis parmi ces gens-là. Il y avait des gens qui nous ont fait confiance, des adultes. Il y avait déjà avec qui on a échangé des idées, s'est transformé. C'est pas du tout les idées qu'on avait prévues au départ. Bon, moi, j'ai senti un côté assez créatif aussi. Mais voilà, ouais, c'est un lieu d'expression en tout cas. Pour moi, c'est vraiment un lieu d'expression créative à taille humaine. Je le comprends. Et c'est pour ça que je pense que les initiatives en milieu urbain, c'est toujours à taille humaine. Il y a une notion de communauté, de taille critique de communauté.
On va rechercher.
Et même en ville, c'est possible, mais il y a une taille critique. Ouais.
Allez. Locomotivé, vous en avez parlé, on a dit qu'on allait en parler. Ce coup-ci, c'est promis, ça sera juste après ce nouveau morceau dans cette émission. L'Écho des Cimes en CFM avec l'association Canopée. Alors ce coup-ci, retour à la sélection de Vincent Benoît, Lou Reed. Un petit mot sur Lou Reed de...
C'est des mémoires, c'est... Voilà, c'est... Non, c'est que j'aime bien, c'est tout. Voilà, c'est...
Ah bah, ça fait plaisir. Voilà. Et on se retrouve juste après dans l'Écho des Cimes en CFM.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo 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 doo. Never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. Alright. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do. Do 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 do. Ha 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 ha.
C'est l'éco-décime en CFM, une émission avec l'association Canopée. Olivia, membre de l'association, est avec nous pour ce deuxième numéro. Un deuxième numéro en compagnie de Vincent Benoît, habitant de Caplongue et co-président de l'association Les Locaux Motivés. Et ça y est, Vincent, je l'ai dit plein de fois, mais ce coup-ci c'est la bonne. On va parler de cette association Les Locaux Motivés. Alors qu'est-ce que c'est ?
Pour faire le lien quand même avec la partie précédente, c'est moi ma passion, c'est comment des territoires et des habitants se mettent ensemble pour inventer demain. Et en fait, pour moi, c'est aussi pourquoi le travail de Canopée est très intéressant, c'est que demain ça n'existera que si on est sobre, c'est-à-dire si on arrête de détruire la maison sur laquelle on est, c'est-à-dire la planète. Donc ce qui est nouveau pour moi depuis 3-4 ans, c'est de dire que tous les projets territoriaux qu'on fait ensemble, ils doivent veiller à cette sobriété, c'est-à-dire à trouver en nous un maximum de ressources pour se nourrir, pour se déplacer sans trop dépenser de matière de type pétrole.
Voilà. Alors par exemple,
Par exemple,
ça se traduit comment
Voilà, pour parler
donc la village étoilé.
Voilà, village étoilé par exemple,
diminution
de consommation d'énergie et puis par exemple pour la nourriture, c'est d'éviter que la nourriture se déplace sur de trop longues distances.
Donc c'est-à-dire éviter que la nourriture se déplace sur de longues distances et là, vous faites appel au maximum aux producteurs locaux.
L'ingéniosité diminue. Alors on le verra tout à l'heure comment on optimise. Il y a aussi un fait tout simple, mais quand on est en agriculture de bio ou de type bio, on diminue les intrants, c'est-à-dire l'engrais. Il faut savoir que pour un kilo d'engrais, à peu près, alors je peux me tromper, mais 5 litres de pétrole. Dès qu'on enlève l'engrais, on a d'emblée un fait de sobriété. Et un territoire qui dépend du pétrole est un territoire qui ne sera plus souverain. C'est-à-dire que si demain quelqu'un enlève le robinet à pétrole, vous n'avez plus rien qui pousse dans les champs, plus comme avant. Et vous n'avez plus les moyens de vous nourrir. Et dans l'histoire de l'humanité, tous les territoires qui ont abandonné la souveraineté alimentaire ont fini par perdre la souveraineté politique.
Donc pour vous, l'important, c'est la souveraineté alimentaire.
La souveraineté alimentaire, en réalité, elle est à la base de tout, parce que quand vous mangez plus, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de radio, il n'y a plus d'internet. Donc en réalité, la souveraineté alimentaire, au fond, elle est éminemment importante et éminemment politique. Pour anecdote, l'Arabie Saoudite, quand ils ont fait le premier choc pétrolier de les années 74, ils ont d'abord construit complètement de A à Z des champs de blé dans le désert, sur des nappes phréatiques. Et après, ils ont fait le choc pétrolier, a priori, si ma mémoire est bonne. Donc, en fait, ils avaient besoin d'être sûrs qu'ils auraient de quoi manger avant de pouvoir imposer des tarifs du pétrole à tous les autres. Donc, on voit bien que la nourriture est beaucoup plus importante que le pétrole dans des stratégies.
Donc, pour vous, la souveraineté alimentaire s'impose à la souveraineté énergétique, parce qu'on pourrait autrement dire...
Ah oui, elle est encore avant, mais c'est, en réalité, vous savez, la nourriture, c'est de l'énergie.
Oui,
pour
oui,
vous,
bon.
C'est de l'énergie.
Non,
donc, voilà. Donc, simplement, donc, la notion de souveraineté, c'est important que je la définisse parce que c'est un mot qui est un peu galvaudé. La souveraineté, pour moi, c'est de dire qu'en tant qu'individu, je ne veux pas mettre mon avenir entre les mains de personnes ou de tiers qui pourraient me manquer de bienveillance. C'est vraiment important parce que souvent, en souveraineté, on tend à s'enfermer sur soi, ce que vous avez dit tout à l'heure. Non, c'est s'ouvrir un maximum, c'est inventer ça avec ses proches. Alors, ses proches, ça peut être physique, ça peut être intellectuel, etc. Donc voilà, quand je dis souveraineté, c'est important, c'est-à-dire on peut pas se plaindre demain de se voir imposer un choc pétrolier si on n'a pas prévu de se passer du pétrole. Donc l'objectif des locomotivés, c'est d'abord de se manger au plus proche en étant le plus sobre possible, en enlevant les intrants plastiques, en enlevant les engrais qui sont pétrolifères, etc. Et c'est un concept de résilience, c'est un mot un peu compliqué la résilience, mais c'est un concept assez simple qui dit comment un territoire ou un corps humain, peu importe le concept, c'est comment on va trouver en soi les ressources pour résister aux crises. Donc à partir du moment où vous créez du lien social, on le démontre en théorie, à partir du moment où vous créez du lien social fort sur un territoire, vous augmentez énormément sa résilience. Un peu comme vous dans votre corps, si votre cerveau communique bien avec votre foie, avec vos yeux et avec l'ensemble de vos organes, il sera beaucoup plus résistant que si la communication entre ces organes se passe mal, tout simplement. Donc, si sur un territoire vous améliorez la communication et vous mélangez des ingrédients différents, vous augmentez énormément la capacité à résister aux crises.
Je comprends très bien ce que vous dites, mais je pourrais très bien vous dire, mais pourquoi voulez-vous résister à un système qui globalement ne vous satisfait pas ? Pourquoi justement pas attendre, voire provoquer une rupture ? Et là, c'est une autre possibilité.
Moi, je travaille à petite échelle avec des choses que je comprends. La grande échelle, on se sent impuissant et moi, j'ai besoin d'agir. J'ai un corps qui a besoin d'agir, donc de voir les effets avec mes collègues, de ce qu'on fait, d'avoir du plaisir à manger avec des gens, d'avoir des sourires. Enfin, j'ai besoin. Voilà. Donc ça se fait avec des gens proches. Ça se fait là, quoi. Ça se fait pas ailleurs. Donc les grandes idées, c'est bien. Ça nous fonde dans la réflexion, mais il faut l'action. Et l'action, c'est des petites actions.
Et puis, je crois que entre ce que dit David et ce que tu dis, Vincent, il y a deux dynamiques différentes. Une dynamique de rupture, c'est pas une dynamique effectivement de créative, une dynamique de, en tous les cas, de construction. Et je crois que on vit mieux quand effectivement on construit, qu'on peut mesurer les effets de ses actions, que quand on casse tout. Voilà. Peut-être qu'on a des difficultés. Je m'applique à faire le toujours le prendre le recul et à voir un peu à l'échelon plus grand, mais on a peut-être des difficultés par les temps qui courent, mais n'oublions pas qu'on a encore je dirais en France une structure collective, même si elle est un petit peu malmenée, mais d'empêche qu'elle existe, et on a encore tout un tas d'espaces de liberté, et du coup saisissons-nous de ces espaces-là pour créer, pour inventer et pour être force de proposition. Je crois que effectivement les instances, les pouvoirs publics montrent sur un certain nombre de domaines leurs limites, parce qu'on est dans un monde globalisé où les jeux des acteurs est complexe, mais d'empêche que d'être partie prenante et d'être force de proposition, c'est aussi une manière d'inventer le monde de demain. Et donc ça se fait effectivement à l'échelon local. Ça a des incidences, je dirais, que l'action, des actions telles qu'elles sont portées par les locomotivés, ça, l'addition de plein d'actions comme ça, ça a des incidences sur le tissu global de notre société, voilà, à l'échelon du pays, de l'Europe, etc., etc. Voilà.
Inventer le monde de demain, c'est ce que vous disiez tout à l'heure.
Avec mes proches, en fait. Inventer demain avec mes proches.
Ah voilà, inventer demain avec vos proches. Ça veut dire quand même quelque part, c'est que il y a quand même un espoir, une confiance en l'avenir. Vous n'êtes pas désespéré, sinon vous
Ouais, mais en fait, la question que j'aime vous poser, ça sera quoi d'être désespéré? Même si c'est la merde de demain. Autant essayer. Y croire aujourd'hui, ça me rend plus heureux aujourd'hui, donc voilà. Je dirais qu'à la limite, je m'en fous d'être rationnel. Si ça crée du lien, que ça crée du plaisir, que je mange mieux, que j'ai plus souvent des bouffes avec des potes, et ben voilà.
Donc, plutôt c'est, que de déprimer voilà. Pour ce qui va arriver
donc, si
demain.
Vous voulez, c'est pas, la question d'être rationnel, elle est, moi je dis souvent, soyons sérieux, rêvons un peu. Soyons sérieux, rêvons un peu, parce que quand on rêve plus, mais c'est bon, on crée pas, on avance pas, etc. Donc, être sérieux aujourd'hui, même quand on est dans un conseil municipal, c'est rêver un peu, parce que tout le monde vous dit, non, mais on faut être sérieux, il y a plus d'argent.
Bah, oui.
On n'y arrivera pas, il y a plus de bénévoles, il y a plus ci, il y a plus ça, les gens n'y croient plus. Non. Oui, c'est vrai que des fois, on a envie d'être déprimé, mais bon, voilà, on essaie de faire du mieux qu'on peut. Donc, sans doute qu'on est privilégié à Caplong et Arvieux, le fait qu'on était aussi bien accueillis, sans doute que ça nous donne cet espoir. Si on était tombé dans un village où on nous aurait appelé étrangers tout le temps, mais sans doute qu'on déprimerait aujourd'hui aussi. Je dis pas que c'est si facile. On a sans doute eu de la chance, en fait. Faut pas non plus nier ça. Mais voilà, quand on peut y croire, eh ben, on peut changer les choses. Donc, la première chose pour changer quelque chose, c'est d'abord d'y croire, hein. Donc, si vous y croyez pas, voilà, ça marche pas.
Juste un mot pour rappeler ce que disait Vincent tout à l'heure, c'est que, effectivement, ça coûte aussi. Faut pas croire que ça veut dire que il faut être en capacité de excusez-moi l'expression de se bouger le cul quoi.
Oui.
Voilà.
C'est pour ça que je disais aussi tout à l'heure, c'est aussi un privilège.
Non, c'est pas un privilège, c'est on a tous cette capacité là. Mais peut-être que effectivement la déprime c'est peut-être la voie facile parfois et que choisir une autre voie c'est remonter ses manches et y aller.
Alors ça peut être un privilège dans un certain sens, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens qui sont vraiment dépassés par l'intensité agressive d'une vie moderne. Mmh. Je dirais, je suis femme seule, j'ai des enfants, voilà. J'ai un rythme de vie. Voilà. Donc là, du coup, à un moment donné, sans solidarité, je peux me retrouver en disant je ne vais pas être solidaire avec les autres parce que je n'ai pas la capacité de l'être. Mais si je suis dans un espace solidaire, je peux commencer à trouver les moyens que des gens me gardent mes enfants et avoir le temps de participer peut-être à une soirée musicale. Vous voyez, ce n'est pas si simple non plus. Mais voilà. Mais simplement dire, non, on ne peut pas dire. Je pense que c'est une responsabilité qu'on a tous. Voilà. Et quand on a la capacité physique et intellectuelle de le faire, faisons-le. Et après, voilà, on est dans une émission avec des auditeurs, et peut-être se dire c'est un truc d'intello, ou voilà, etc. Voilà, non, c'est un truc de gens qui ont le temps ou que ça a à foutre. Non, moi j'ai un travail qui me prend beaucoup de temps, je roule pas sur l'or, etc. Mais par contre, ce qui est important, c'est que tous les projets auxquels je participe avec des gens très différents. Je participe, c'est un agriculteur, un artisan, des gens qui sont plutôt dans le manuel, d'autres plutôt dans l'intellect. Enfin, il n'y a pas de jugement de valeur à avoir par rapport à ça. Et voilà, parce que là aujourd'hui, on nous a invités parce qu'on s'est bien parlé. Donc moi, j'ai plein de gens qui sont hyper importants dans la société locomotivée, ils viendront pas parce qu'ils sont trop timides. Mais sans eux, rien ne tient. Donc voilà, donc c'est ça qu'il faut que les gens s'imaginent aussi concrètement, c'est un vrai mélange. Et c'est quand même le vrai mélange est vrai, qu'on n'est pas qu'entre mecs qui aiment la musique punk ou qu'entre mecs qui aiment que la bonne bouffe bio. Non, c'est quand on mélange et ce mélange, il fait plaisir. Voilà. Donc il faut vraiment se dire, non, c'est la vraie vie. La vraie vie, c'est qu'en milieu rural, si je veux voir mes voisins, mais ça va être des fois un agriculteur, des fois un artisan, des fois un mec de droite, des fois un mec de gauche, des fois un pro-bio, des fois un anti-bio. Enfin voilà, c'est ça la vie. Donc, et c'est ça qui fait que c'est bon.
Et riche.
et riche.
C'est la
voilà.
diversité.
Et c'est la créativité. Sans diversité, pas de créativité. Voilà.
Alors justement, la créativité, c'est une façon d'inventer demain, comme vous dites. Mmh. C'est quoi un peu vos objectifs comment vous envisagez l'avenir? Alors, moyen, à long terme.
Locomotiver
et puis après sur Caplong.
Alors les locomotiver qu'est-ce que c'est? Les locomotiver, c'est une association en fait dont le but est de relocaliser l'alimentation. En fait, on cherche à être astucieux. Astucieux, c'est quoi? Ça veut dire que demain je peux avoir 40 mamies dans le village qui produisent tout au même moment trop de tomates. On peut aussi se dire, les filles, peut-être que les tomates, on vous les ramasse. Vous nous les ramassez et on va faire du tomata avec le labo de Céline local et pour 10 pots de tomates on vous en redonne un et voilà et tout, on n'a pas jeté de tomates et tout le monde est gagnant. Ça c'est un exemple de sobriété. Nos grands-parents, ils avaient une poubelle organique vachement connue qui marchait vachement bien, ça s'appelle le cochon.
Hein,
le cochon,
Le
cochon, c'était la manière la plus astucieuse de recycler ces déchets organiques et ça faisait une très bonne calorie qu'on appelle le saucisson. Bon voilà. Donc pour nous c'est ça l'idéal. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Néanmoins, locomotiver, notre projet phare, c'est d'imaginer tout ce qui va permettre d'exploiter la calorie du territoire. Il y a des châtaignes pas ramassées, comment on fait pour les ramasser? Ça, c'est le vrai projet idéal des locomotivés. C'est recycler tout, et on a un potentiel énorme parce qu'on jette énormément de choses. Mais le projet phare qu'on a mis en place, c'est d'abord comment permettre à des producteurs de vivre décemment de leur production et permettre à un maximum de gens de manger local. Donc comment permettre aux gens du Lévézou et de Rodez de manger des produits de producteurs locaux. Et là, on met en place les recettes des nouveaux ingrédients du troisième millénaire. C'est diversité des gens, quand on crée l'association, outils numériques internet qui permettent de mélanger beaucoup plus vite les gens. En gros, je dis l'internet, c'est le batteur, c'est plus un batteur de 2 watts pour faire mayonnaise, c'est un batteur de 10 000 watts. Donc on peut faire des mayonnaises qui prennent beaucoup plus vite grâce à internet et le lien social qui est très important. Donc le projet phare qu'on a, c'est de proposer des paniers à tout le monde. Vous pouvez commander, vous vous inscrivez sur un site internet qui s'appelle, vous appelez Locomotivé sur internet. Vous avez du jeudi en tant que consommateur au lundi pour prendre les produits que vous voulez quand vous voulez. Alors il y a tout type de produits, tout fromage, toute viande, etc. D'accord. On a vraiment 300 références, donc vous pouvez faire complètement vos repas avec nos produits. Entre le jeudi et le lundi. Le lundi, les commandes s'arrêtent. Chaque producteur, il y a 20 producteurs différents, reçoit la commande pour David, par exemple, pour Olivia, etc. Il fait son petit paquet. Et le mercredi, on se regroupe tous à Caplong et on fait, chaque producteur met dans la caisse où il y a le nom David, les produits de David, et il y a deux types de produits, du frais et du sec. Donc, en plus, on sait gérer du sec et du frais, c'est technique, mais on sait gérer les deux, livrer les deux. Donc, David, il se fait livrer où? Il se fait livrer à CFM. Il fait pas un déplacement supplémentaire pour le produit. Il faut savoir que d'un terme point de vue écologique, c'est le dernier déplacement qui coûte le plus cher, parfois.
Ah bon? Ouais, d'accord.
David, quand vous achetez une banane, il faut savoir qu'en fait,
c'est
le déplacement de supermarché à chez vous qui coûte le plus cher en termes d'écologie, parfois. Donc, c'est un peu étonnant. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on livre au plus proche pour limiter ce déplacement et vous commandez ce que vous voulez.
Mais à quelle distance je peux me faire livrer?
Là, on est que le rayon de Rodez. C'est-à-dire qu'on considère que le plus proche pour vous.
C'est déjà pas mal.
Voilà.
Donc, d'accord.
Mais on considère que le plus proche. Alors, le plus proche, c'est quelque chose qu'on a bien réfléchi.
Ouais, bah oui.
C'est astucieux quand même aussi parce que le plus proche pour Toulouse, ça reste le Lévézou. Pour la viande. Il faut savoir qu'à Midi-Pyrénées.
D'accord.
Seulement 30% de la viande est locale. Alors que Midi-Pyrénées pourrait se nourrir que de Midi-Pyrénées. C'est dommage d'un point de vue économique, c'est dommage d'un point de vue écologique, c'est dommage d'un point de vue subvention publique, puisqu'on subventionne une agriculture pour faire venir de la viande d'Amérique peu importe d'où, mais en tout cas d'ailleurs. Donc voilà, c'est juste que manger au plus proche, c'est de dire que les territoires agricoles comme l'Aveyron, eh ben ça veut dire que demain, un projet locomotivé, ça peut être comment on transporte de la nourriture que les Montpelliérains n'auraient pas sinon, de la manière la plus sobre, vers Montpellier ou vers Toulouse. Ça pourra être ça demain, même si c'est pas le but aujourd'hui. Donc, vous avez fait ça. Vous avez commandé à 20 producteurs. Ces 20 producteurs, ils vous ont votre email. Vous avez leur email. C'est-à-dire que c'est du vrai circuit court. On a l'expérience récemment, mais plutôt par email. C'est les producteurs qui livrent. C'est-à-dire que chaque semaine, c'est les producteurs qui livrent chaque point relais. C'est-à-dire que vous verrez, chaque semaine, un producteur venir vous livrer vos colis à la radio, dans votre entreprise, avec le nom des 10 personnes qui ont commandé.
D'accord.
Et vous verrez un producteur venir vous livrer. Le consommateur final, lui, ne le verra pas forcément. Alors, on a les points relais entreprise, c'est-à-dire que chaque entreprise peut nous appeler en disant, moi, j'aimerais bien avoir un drive dans mon entreprise.
Ouais.
On va s'organiser pour le faire. On achète même le frigo aux entreprises qui n'en ont pas. On est sympa.
D'accord,
Mais on a aussi des points relais bénévoles de commerce qui marchent du feu de Dieu. Donc, on a énormément de bienveillance. C'est vraiment un territoire qui se lève pour dire, on a envie de manger local, on va se démerder.
Ouais.
Vous avez à la Primob une dame qui a un magasin de couture qui fait un point relais. On
d'accord,
a
oui,
jusqu'à 10 paniers.
En citer quelques-uns.
À Flavin, on en a un autre, un bureau de tabac.
D'accord.
Madame Toutain, c'est Baza comme pressing.
Parfait.
Voilà, qui à eux seuls ont trouvé les clients, se sont débrouillés et gèrent un point relais. Un point relais, c'est quand même pas forcément qu'agréable. Vous avez 10 caisses qui arrivent, vous avez un frigo, etc.
Oui.
C'est quand même,
c'est de la manutention.
Ils font ça aussi bénévolement, etc. Et avec qui on a de très très bonnes relations.
Donc, voilà. Et donc ça existe déjà?
Ça existe déjà. Et la semaine dernière, on a battu notre record, on a fait 115 paniers dans la semaine.
Oh, mon avis, vous n'allez pas souvent là.
Voilà. Voilà, non, mais ça met du temps quand même.
115 commandes.
115 commandes.
Bien. 20 producteurs.
20 producteurs. Donc, la majorité sont dans le bio, mais pas tous, puisque notre objectif était la sobriété, manger au plus proche, et aussi c'était de mélanger. Donc, on a commencé petit à petit. On est parti du plus proche. Voilà.
Alors, je suis adhérente et consommatrice et cliente au Locomotivé. Donc, peut-être puisqu'on évoque cette expérience, les Locomotivés organisent aussi des rencontres, des temps de rencontres, et peut-être qu'il y a trop peu de monde qui s'intéresse à la question, parce qu'on sait qu'aussi dans la consommation, comprendre ce qu'on se consomme, comment il est conçu, comment il est pensé, comment il est produit, c'est important. Vincent disait qu'on peut faire tous les repas, eh bien je mettrai un bémol, mais en même temps il est intéressant ce bémol, dans la mesure où nos producteurs ici dans nos régions, nos producteurs de légumes par exemple, produisent peu l'hiver de fait, donc c'est aussi une manière de se remettre en lien avec les aléas d'un écosystème, et c'est aussi, donc en termes de lien, les Locomotivés, donc il y a une petite lettre qui s'appelle la
Chaparelle,
qui justement fait le point sur comment produit tel producteur, quelles questions il se pose. Enfin, parfois on a vu des échanges aussi où des consommateurs n'étaient pas contents, par exemple, de pas avoir assez de pois mange-tout à la saison, mais c'était une manière aussi de se rendre compte que on produit pas en quantité industrielle et qu'effectivement il faut partager la production. Donc voilà, il y a des échanges qui sont intéressants, même quand ça coule pas tout seul.
Et quand ça coule pas tout seul, d'ailleurs, c'est là où on se construit la vraie confiance sur le consommateur, c'est que quand on suscite des questions, qu'on pose est-ce que ça va, et qu'on a des réponses et qu'on répond, c'est là où se construit la confiance. C'est-à-dire que je dirais que c'est presque dans ces erreurs-là ou dans ces problèmes de livraison où on va construire une vraie relation de confiance, parce que le consommateur voit qu'on est capable de lui répondre sincèrement. On peut pas.
Donnez les coordonnées du site internet.
Alors vous tapez loco LOCO espace motivé, comme on est motivé, et avec un S à la fin.
Parce qu'ils ont plusieurs.
Et voilà, et vous trouverez le site normalement. Si vous trouvez pas, vous tapez Locomotivé Arvieux, et là vous trouverez normalement. Et vous verrez, c'est très simple de commander. Je dirais qu'il faut tester. Il faut tester parce qu'il y a des produits, et la majorité des produits sont vraiment exceptionnels. Il y a des produits qui sont plus rares, que vous pouvez commander que tous les mois, comme la viande, par exemple. Mais on a vraiment eu la chance, ça c'est pareil avec du recul, d'avoir que des producteurs qui font vraiment une qualité gustative dont on nous parle. C'est-à-dire, en fait,
J'atteste. Il y a des choses qu'on ne trouve pas ailleurs.
Et même sur les légumes. Voilà. Donc, pour répondre à Olivia, sur les légumes, on travaille beaucoup pour essayer de stabiliser. Voilà.
Alors, il est malheureusement bientôt l'heure de se quitter dans cette émission L'École des Cimes en CFM. On va rappeler, vous, niveau calendrier, on va évoquer des dates. Alors, vous me parlez du 28 juin pour des.
Alors, Caplong, village étoilé. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, vous prenez la dernière page d'Astérix et Obélix et vous voyez le cinglé qui crame. Eh bien, on a trois événements. On a le feu de la Saint-Jean qui est là d'habitude. Donc, on fait le vraiment grand feu avec la ronde, avec les enfants autour du grand feu à Caplong, parce que on est un village gaulois. Mais ce jour-là, on va fêter, on va planter le mai, on continue à garder. C'est-à-dire que les élus de Caplong, dont je fais partie, se voient offrir un arbre à l'honneur de leur élection. Donc, on va planter le mai et on va fêter en même temps. Caplong, village étoilé, on va planter les panneaux qui, à l'entrée du village, comme village fleuri.
Comme village fleuri, oui.
Vont afficher. Village.
Très bien. Tout ça le 28.
Tout ça le 28. Donc, tous les gens qui veulent venir à Caplong, sont invités puisque c'est une fête ouverte à tous.
Voilà. Et, ça débute, dans l'après-midi?
Oui, 19h, 20h, quoi. Voilà. Il y a bien sûr, il y a à manger. Apéro et manger.
Voilà. Très bien. Olivia, pareil niveau calendrier du côté de Canopé ou autre, ou ses amis?
Annoncer simplement l'assemblée générale qui aura lieu demain.
Ah bah oui.
Donc nous vous donnons rendez-vous au moulin de Lin, qui est sur la commune des Costes-Gauzon, si mes souvenirs sont bons.
Mais ils sont bons, vos souvenirs.
Et ensuite c'est une assemblée générale donc itinérante. Nous commençons au moulin de Lin avec un petit
un apéro.
Non, on commence pas à 10h30 par l'apéro, mais l'apéro est offert le midi, donc on vient avec son panier et on met en commun. Et on partage aussi l'apéro offert par Canopé. Puis c'est une AG itinérante, donc on s'en va à Vispins, qui est un lieu de vie qui a été créé par un certain nombre de personnes, et on va découvrir ce lieu de vie qui se situe au-dessus sur la commune de Sainte-Afrique. On finit par un apéro au lieu dit à Sainte-Afrique, qui est un café associatif, et après chacun ira faire la fête à la fête de la musique à Sainte-Afrique. Donc une AG délocalisée par rapport à Rodez et itinérante pour découvrir tout un tas de sujets en se baladant.
Parfait, on va se quitter en musique avec le dernier choix de Vincent Benoît, qui est, je le rappelle, habitant de Caplongue et co-président de l'association Les Locaux Motivés. Mais avant d'écouter ce dernier titre pour se quitter, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Caplongue, au village de Caplongue, pour les mois, les années à venir?
De nouveaux projets, que le cabaret Réveillon du 1er de l'an se passe bien avec de nombreux spectacles locaux et que de nouveaux arrivants arrivent. Et
ah
que,
voilà, vous n'êtes pas fermé.
Non, et que plein d'enfants naissent et que voilà.
Bah, le boulanger
il va bientôt
avoir fini.
Et sa femme. Oui, et, il n'est pas tout seul.
Évidemment, bien sûr, Olivia. Merci beaucoup à tous les deux, Olivia de l'association Canopée, Vincent, habitant de Caplongue. On se quitte alors sur Georges Brassens, vous avez voulu. Mm-hmm. Le titre.
Je crois que c'est Gloire à Don Juan.
Et un petit commentaire?
C'est une chanson que j'aime beaucoup parce qu'elle est impertinente comme Georges Brassens savait les faire. C'est la gloire simplement aux gens qui essaient de bien faire leur métier. Voilà, c'est sympa.
Merci beaucoup à vous Vincent. Merci Olivia.
Merci.
Peut-être au mois prochain.
Ce ne sera pas moi puisqu'on tourne sur cet espace-là.
Si vous revenez, je dirai rien. Hein.
Et je ne saurais pas parler. Peut-être le mois prochain, un sujet très croustillant, la réglementation thermique 2012.
Youpi,
un débat contradictoire.
Super, non mais très bien.
Voilà.
Merci beaucoup et au mois prochain pour l'écho des Cimes en CFM.
Gloire à qui freine à mort de peur d'écrabouiller le hérisson perdu, le crapaud fourvoyé. Et gloire à Don Juan d'avoir un jour souri à celle à qui les autres n'attachaient aucun prix. Cette fille est trop vilaine, il me la faut. Gloire aux flics qui barraient le passage aux autos pour laisser traverser les chats de Léoto. Et gloire à Don Juan d'avoir pris rendez-vous avec la délaissée que l'amour désavoue. Cette fille est trop vilaine, il me la faut. Gloire au premier venu qui passe et qui se tait quand la canaille crie haro sur le baudet. Et gloire à Don Juan pour ses galants discours à celle à qui les autres faisaient jamais la cour. Cette fille est trop vilaine, il me la faut. Et gloire à ce curé sauvant son ennemi lors du massacre de la Sainte Barthélemy. Et gloire à Don Juan qui couvrit de baisers la fille que les autres refusaient d'embrasser. Cette fille est trop vilaine, il me la faut. Et gloire à ce soldat qui jeta son fusil plutôt que d'achever l'otage à sa merci. Et gloire à Don Juan d'avoir osé trousser celle dont le jupon restait toujours baissé. Cette fille est trop vilaine, il me la faut. Gloire à la bonne sœur qui, partant pas très chaud, dégela dans sa main le pénis du manchot. Et gloire à Don Juan qui fit reluire un soir ce cul déshérité, ne sachant que s'asseoir. Cette fille est trop vilaine, il me la faut. Gloire à qui n'ayant pas d'idéal sacro-saint se borne à ne pas trop emmerder ses voisins. Et gloire à Don Juan qui rendit femme celle qui qui sans lui, quelle horreur, serait morte pucelle. Cette fille est trop vilaine, il me la faut.